Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, ça y est, nous sommes le premier jour de décembre. Décembre, le mois de Noël, le mois de la plus jolie des fêtes, de la plus chaleureuse des fêtes, de la plus chrétienne des fêtes. Le mois de la naissance, de la célébration de la naissance du Christ. Le mois aussi où on quitte les derniers jours de l'automne pour rentrer dans l'hiver. Donc c'est une période absolument magnifique visuellement. Je ne vais pas revenir dessus. Les deux précédents podcasts portaient sur la thématique donc de la préparation de l'avant Noël, la période de l'avant. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans le troisième podcast dédié à ce sujet. Podcast toujours et encore sponsorisé par Terre de France. Donc voilà, je les remercie d'entrer. Terre de France, d'ailleurs, je vous le dis, n'attendez pas les derniers jours pour aller faire vos emplettes parce que ce sera rempli de monde, ce sera infernal. Pensez à faire des cadeaux qui joignent l'utile à l'agréable, des cadeaux qui vont soutenir les causes que vous aimez, notamment à travers de Terre de France, comme je vous le disais dans les deux précédents podcasts, qui reverse ses bénéfices à des associations d'anciens militaires et de paysans, les amis. Donc c'est l'occasion de faire d'une pierre trois coups, me soutenir, soutenir Terre de France et faire un beau cadeau. Ils ont d'ailleurs à ce propos, et je pense que ça c'est d'utilité publique, ils ont fait une réédition de l'Histoire de France par Jacques Bainville. Livre d'histoire extrêmement accessible. C'est vraiment un des premiers ouvrages de entre guillemets vulgarisation de l'histoire de France. Et je trouve que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez au fait de notre histoire. On a une des histoires les plus incroyables de l'humanité. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir une histoire comme la nôtre. Donc c'est très très bien d'en connaître les... Alors moi j'ai écrit des livres surtout sur le Moyen-Âge, si c'est cette période particulièrement qui vous intéresse. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous procurer Crépuscule des Titans et Siècle Furieux. Mais Bainville a le mérite d'avoir couvert vraiment absolument toutes les périodes de la France, de l'histoire de France. Donc ça peut être un magnifique cadeau, et puis c'est très accessible, y compris à des jeunes. Donc voilà, si vous avez envie de faire un très beau cadeau et de joindre l'utile agréable, vous avez la réédition de l'histoire de Jacques Bainville. Et sinon, en plus basique, vous avez les chapelets de chez... ça, c'est tout bon catholique, doit avoir son chapelet. Vous avez les chapelets, donc, de chez Terre de France, qui est un must-have, comme disent les enculés d'anglo-saxons. Non, mais sérieusement, un bouquin d'histoire de France, un chapelet, bon, est-ce qu'on peut dire que t'es armé pour la vie, quoi, voilà. Et un flingue, voilà, il y a un flingue. Offrez un flingue à vos enfants pour Noël. Mais moi, j'en rigole. Mais ça, c'est des trucs qui existent au Texas. C'est des trucs qui existent même dans plusieurs États américains, mais pas forcément pour faire du sale. Des flingues pour la chasse et tout. C'est vraiment dans la tradition de s'offrir des armes. Ça se faisait beaucoup aussi en France à l'époque. On a l'impression que la France a toujours été un pays hostile aux armes ou désarmé. Ce qui est faux, ça n'est que très, très récemment qu'on a désarmé les Français. Moi, je me rappelle dans les années 90, au début des années 90, tu pouvais acheter des fusils à pompe à Décathlon. Des fusils à pompe, des superposés, des juxtaposés. Alors après, j'ai pas le détail parce qu'à l'époque, je m'y intéressais pas, mais j'ai le souvenir vraiment... et même, je me demande si j'en ai pas vu en grande surface. Je me demande, je vous jure, je me demande si j'ai pas vu des coffres en grande surface avec un petit coin armurerie entre les Tupperware pour la salade et le guide du routard. Quand. Je vous promets, à l'époque, c'était quoi? C'était Mammouth, Attaque. Pour ceux qui se rappellent, c'était les franchises, les grandes franchises qu'il y avait avant que Leclerc et Carrefour ne pulvérisent tout le monde. Mais ils avaient un... Moi, il me semble, dans mes souvenirs, alors peut-être que je confonds avec Decathlon, mais il me semble qu'en grande surface, tu pouvais acheter des armes de chasse jusqu'au début des années 90. Et après, évidemment, la législation a changé jusqu'à devenir vraiment extrême, et aujourd'hui, les Français sont extrêmement désarmés. Mais c'était pas rare à l'époque de... Enfin, les armes circulaient, puis c'est quelque chose qui, historiquement, fait partie d'une sorte de prérequis. Quand on est père de famille, il faut subvenir aux besoins de sa famille, évidemment. Il faut être en capacité de pouvoir alimenter financièrement le foyer et de le défendre, que ce soit physiquement ou par les armes. Et puis, il y avait aussi la tradition de la chasse. Hein. Beaucoup de gens chassaient, y compris chez les paysans. Vous avez beaucoup de romans qui parlent de ça, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, quand vous regardez un peu les les romans provençaux de, comment ils s'appellent, je confonds toujours, c'est pas Prévert, bon, je confonds toujours, excusez-moi, qui a beaucoup écrit sur la Provence, Manon des Sources et compagnie, putain, comment ils s'appellent. Bon, je sais que les provençaux, ils sortent de leur siège en disant, mais putain, comment il a pu oublier. Bon, ça me reviendra, les amis. Attendez, il faut que je le sache. Faut que je le sache. 2 secondes, je veux absolument savoir, putain, comment ça a pu me sortir de la tête. Attendez, hop, on va aller regarder sur Google. C'est pas Jacques Prévert. Jacques Prévert, c'est un poète. Il a fait Le Roi et l'Oiseau. D'ailleurs, dessin animé que je vous conseille de regarder, qui est un monument de l'animation française. Absolument magnifique et qui a beaucoup inspiré putain, j'arrive pas à parler quand. Miyazaki, Hayao Miyazaki, enculé. Hayao Miyazaki a beaucoup été inspiré par ce dessin animé, qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, qui a été fait par Jacques Prévert. Mais putain, le Provençal, écrivain, mais attendez, mais. En plus, je suis allé dans une école qui portait son nom. Putain, Alphonse Daudet, putain. Alphonse Daudet, Frédéric Mistral, Marcel Pagnol, voilà, Marcel Pagnol. Voilà, Alphonse Daudet, c'était une école qui avait à Plaisance du Touche. Non, je n'y suis pas allé, mais je la connaissais. Voilà, donc c'est ça. C'est Marcel Pagnol. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, la chasse, en fait, c'est décrit comme étant vraiment un truc de base. Les mecs, ils vont à la perdrix, ils vont au faisan. Le paysan comme le bourgeois, enfin, c'est vraiment un truc. Et entre-temps, vous voyez, le 19e, s'il n'y a pas très très longtemps, hein, le 19e, c'est vos arrière-grands-parents. Pour ceux qui ont mon âge, pour ceux qui ont entre 30 et 50 ans, vos grands-pères, vos grands-pères, c'est le 19e siècle, quoi. Donc, vos arrière-grands-pères, c'est le 19e siècle. Donc, c'était vraiment très, très récent à échelle historique. Et il y avait des armes qui circulaient. Alors, je suis pas en train de dire d'acheter des flingues pour Noël à vos gosses. Bon, bien que ça se fait encore, hein, d'offrir un fusil de chasse pour les jeunes chasseurs. Moi, je connais des familles, là, dans mon secteur. Là où j'habitais avant, dans le Savès, donc entre le Gers et la Garonne, dirons-nous, les bords de Garonne et le Gers, pour vous donner quelque chose qui vous parle peut-être, hein, je connais des familles où ça, où à Noël, il y a le cadeau du fusil. Bon, je trouve ça extrêmement beau. C'est un cadeau que recevait ton arrière-grand-père. Bon, enfin, c'est quand même assez émouvant que ces choses-là continuent et que la tradition de la chasse continue. Voilà. Donc, n'offrez pas forcément un fusil à vos ados. C'est peut-être pas une bonne idée en ce moment. Mais un bouquin d'histoire de France, c'est très très bien. Vous savez, j'ai fait une interview récemment où je fustigeais un peu tous ces droitards qui se réclament de la France et qui, enfin, en tout cas, qui se réclament d'un retour à la France et qui savent pas exactement ce que c'est que la France ni les fondations de la France. Attention, c'est pas un crime d'être nul en histoire. Mais quand on se veut ou se dit patriote et attaché à la nation, c'est quand même bien de connaître un petit peu, son pays, ses fondations, ses particularités, parce on ne peut que mieux le défendre par la suite et on ne peut que mieux s'expliquer pourquoi aussi il dégringole. Il y a beaucoup de gens qui manquent de culture historique et c'est la raison pour laquelle ils ne voient pas l'intérêt d'un retour massif à la tradition catholique. Voilà, parce qu'en fait, quand vous lisez l'histoire de France, vous vous rendez compte que les épisodes vraiment, vraiment glorieux, même s'il y a eu des choses intéressantes à l'époque gallo-romaine, évidemment, les Gaulois ont quand même marqué l'histoire romaine, mais vraiment, les choses sérieuses commencent à partir du moment où nos rois se christianisent, donc à partir de Clovis, et vous avez comme ça un défilé un défilé d'actes héroïques, de très belles choses qui vous font aimer d'autant plus ce pays. Et d'ailleurs, moi qui suis très attaché au Sud-Ouest, vous savez, dans les podcasts, je vous parle beaucoup du Sud-Ouest, parce que j'ai beaucoup de souvenirs attachés au Sud-Ouest. Ben, j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup aimé l'histoire. Vraiment, j'ai été piqué par la mouche de l'histoire. Bon, mon père était très, très féru d'histoire, et je pense que c'est lui qui m'a transmis ça. Mais ça m'a toujours passionné. Et c'est vrai que maintenant, quand je me balade dans d'autres régions, je sais où je mets les pieds, je sais quels sont les tenants et les aboutissants. C'est quand même intéressant de connaître les particularités parce que je vous garantis qu'il y a des trucs qui sont géniaux. Je vais parler de la Normandie parce que c'est pas le Sud-Ouest, mais par exemple la Normandie, l'histoire de la Normandie est absolument fabuleuse. Quand vous savez que En fait, l'Angleterre n'est qu'une dépendance de la France. Enfin, si vous étudiez l'histoire de la Normandie, vous comprendrez qu'il n'y a pas de roi d'Angleterre qui puisse réclamer des territoires en France, mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les rois de France qui devraient récupérer la Normandie via la descendance et la prédominance de Guillaume le Conquérant. Donc, c'est des trucs géniaux. C'est abordé dans ce bouquin-là. Donc, je ne saurais que trop vous le conseiller pour ceux que ça intéresse de vous le procurer. Vous aurez un beau livre d'histoire. Et puis en plus, qui est une référence, hein, Jacques Bainville, je crois. Je me demande si c'est pas les années 30 ou avant. Non, parce qu'il a, je crois qu'il a publié pendant la Première Guerre mondiale ou avant. Donc non, ça doit être les années 20 peut-être. Ça va être les années 20. Donc voilà. Et ça fait toujours référence. Donc voilà les amis. Si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, me soutenir Terre de France et soutenir les paysans cet hiver, vous pouvez vous offrir ce bouquin. Passons immédiatement au podcast. Après cette petite introduction, donc toujours un grand merci pour ceux qui nous suivent. Et sans plus attendre, je vais aborder cette période de l'Avent que j'ai abordée donc dans les deux précédents podcasts. Vous savez, dans la préparation à Noël, alors il y a c'est vrai qu'il y a le côté, quand vous habitez dans une ville, vous avez pas forcément l'esprit village. Parce que dans la ville, en fait, c'est un agglomérat d'anonymes, en fait. Hein. Et c'est à peine si on connaît nos voisins de palier, il faut être honnête. Hein. Alors des fois, on peut avoir des bons rapports et tout, mais ce n'est pas comme dans un village où vraiment il y a une vie organique et on se reconnecte quand même, il faut le dire. On se reconnecte aux gens qui sont autour de nous par la force des choses, parce qu'on a besoin des uns des autres. Et c'est vrai que moi, quand je suis reparti vivre à la campagne, j'ai redécouvert ce plaisir de l'entraide et d'avoir une communauté, en fait. Et la communauté, par quoi elle se fédère? Elle se fédère derrière le club de sport. Donc, dans le sud-ouest, c'est beaucoup le rugby, quoi. C'est vraiment ça qui va réunir les gens le dimanche. Et l'autre grand événement, c'était la messe. Alors c'est rigolo parce que récemment, la Dépêche a fait un petit sujet sur un abbé qui est rugbyman dans le Gers. Donc vraiment là, ça nous ramène à des trucs vraiment sympathiques et je suis étonné parce que les gens dans les commentaires sont unanimes. Les gens dans les commentaires disent « Ah, génial, le curé au rugby, il y a vraiment un entrelac entre spiritualité et rugby. » Puis en plus, enfin, il y a un vrai... c'est intéressant parce que c'est abordé quand même dans le sujet. Il y a une corrélation. Dans le rugby, il y a vraiment énormément la notion de sacrifice. C'est un sport où il y a des gens qui prennent les coups, notamment les avants. Voilà, moi, j'ai fait partie de cette catégorie-là. Je jouais seconde ligne. Le rugby, c'est un sport absolument magnifique parce que il y a la dimension du sacrifice qui est très, très, très chrétien, en fait. Hein. Vous savez qu'on est la religion où quand même le symbole, c'est un supplicié sur une croix. Si tu veux, il y a un moment où on est allé dans des endroits qui étaient l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Sud. On s'est pointé avec une croix et un espèce de personnage torturé dessus. Et on leur a dit, voilà, c'est ça la vérité. Regarde la beauté de ce sacrifice. Alors, il y a des endroits où ça a pris, il y a des endroits où ça a moins pris. Mais c'est vrai que c'est particulier. L'iconographie de la religion chrétienne est quand même particulière parce que il y a vraiment la notion de se faire mal. Enfin, je vais pas vous refaire un podcast là-dessus, mais moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est que putain, le christianisme te dit, tu peux acquérir quelque chose de beau, mais ça passe par la charcutade, quoi. Ça passe par la... Il faut que la viande morfle, quoi. Et le rugby, c'est exactement la même chose, hein. Le rugby te dit, tu vivras des moments de fraternité, tu vivras des moments de gloire, des moments de réalisation personnelle, des moments de fraternité, des moments d'intelligence, Non, ça, un peu moins. Et en plus, je dis ça, mais le rugby est un sport qui demande quand même d'avoir une certaine jugeote, hein, même si on les caricature beaucoup. Le rugby, en plus, traditionnellement, le rugby était un sport qui était vachement rattaché au milieu universitaire. Ça s'est beaucoup développé. C'était le rugby à 13 qui était un peu plus prolo. Le rugby à 15, c'était vraiment un truc d'aristocrate, mais les aristocrates à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire les nobles qui aimaient se la donner. En étant un peu en phase avec ce truc antique de un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est-à-dire que je dois autant développer mon esprit que mon physique, ce qui n'a très très peu pris dans les élites françaises. Les élites françaises, il y a une culture sportive française qui est réelle et qui existe, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, mais on a eu vraiment le rouleau compresseur 68-art qui nous a vraiment fait détester la performance et le sport. Et on est devenu, si vous voulez, une nation qui considère que le sport est quelque chose qui t'éloigne de l'esprit, alors que c'est strictement l'inverse. Le sport va développer l'esprit, le sport va amplifier l'âme, va amplifier le champ des compréhensions, parce qu'en fait, vous allez creuser quelque chose qui est votre propre continent, qui est en fait votre corps. Votre corps est une... Votre corps est une contrée, on dirait un mec qui parle de la masturbation aux adolescents. Ton corps est une contrée qui reste à découvrir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Votre corps, Dieu vous l'a donné pour en faire quelque chose. C'est pas uniquement pour s'avachir et être une merde et tweeter. Il vous l'a donné pour que vous l'actionnez. Il y a une très très belle phrase, je sais plus, j'oublie à chaque fois. Je sais plus quel philosophe, je sais pas si c'est Platon qui l'a prononcé, je sais pas. Un philosophe grec qui dit grosso modo, bien triste est celui qui rentre dans le grand âge sans avoir connu l'apogée de ce que son corps, enfin, ce que son corps aurait pu faire à son apogée, quoi, à l'apogée de sa jeunesse. Voilà, c'est quelque chose dans cette idée-là. Hein. C'est pas le texte factuel, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, rentrer dans la vieillesse, parce que la vieillesse démarre très très tôt, hein, en vérité, on commence à décliner à 35 ans. On commence à décliner la vieillesse biologique, même si elle n'est pas encore perçue. Et même si on peut être encore plus beau à 40 qu'à 30, et y compris chez les femmes. Il y a des femmes qui n'ont jamais été plus belles à 40, à 50 que quand elles étaient jeunes. Je pense notamment à Monica Bellucci, je pense à Fanny Ardant, je pense à Whitney Houston pour les femmes noires, je pense à Salma Hayek qui a été beaucoup plus jolie à la quarantaine pour les latines qu'à la ou même Penélope Cruz. Penélope Cruz n'a jamais été aussi jolie qu'à la quarantaine et même début de cinquantaine que quand elle était toute jeune. Donc vraiment, il y a une vieillesse qui peut être jolie, mais ça se prépare. Une jolie vieillesse, ça se prépare. Et en fait, il faut pas être une merde. Et on commence sans s'en apercevoir à devenir une merde passé les 35 ans. Vous allez avoir un déclin, même s'il est très très léger, même si on redouble d'efforts pour justement ne pas l'encaisser, on le sent. Moi, je n'ai plus les mêmes rendements à 35 qu'à 30, à 30 qu'à 25, et même à 25 qu'à 16. Bon, enfin, ça, c'est encore... Je ne vais pas partir là-dessus parce que j'ouvre des tiroirs dans tous les sens. Mais je vous parlais du sport, du rugby. C'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très corrélé, donc, à la notion d'amplitude intellectuelle, spirituelle même. Alors, on l'a enlevé, ça, en France. Mais quand je vous parlais de Stabé, là, qui est à la fois rugbyman et qui est à la fois abbé, homme d'église, c'est quelque chose qui paraît incongru, mais qui, en fait, est tout à fait normal, parce que il y a une corrélation entre la notion de sacrifice qu'il y a au rugby, ou qu'il peut y avoir dans le travail, ou qu'il peut y avoir dans d'autres choses. Hein. Là, je prends l'exemple du rugby, parce que c'est le Sud-Ouest et que le sujet portait là-dessus. Et à la fois, la conscience du sacrifice spirituel, voilà. Bon, je suis parti dans tous les sens, mais c'était pour vous dire que, dans les commentaires, c'était unanime. Les gens disaient « Ah, oh, génial !» et tout. Et en fait, on le sent. On le sent qu'on aurait une vie plus saine si on était connecté à une paroisse, connecté à un sport, si en fait, on était tout simplement reconnecté à notre identité. Et en plus, c'est génial parce que dans le Sud-Ouest, un type qui est d'ailleurs, il fait du rugby, il va à l'église. Alors aujourd'hui, l'église n'a plus la place qu'elle avait à l'époque. Mais je veux dire, dans les années 50-60, vous veniez d'arriver d'outre-mer ou de je sais pas où, vous vous mettiez au rugby, vous alliez à l'église, vous étiez une composante de la communauté, une composante indiscutable. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui est génial avec cette considération du sacrifice, c'est que le mec qui se sacrifie, il gagne le respect de ses pairs. Il gagne le respect de ses pairs. Qu'il soit bronzé, bridé, ce que vous voulez, à un moment, par le sacrifice, il va gagner une forme de respect. On peut ne pas l'aimer pour des raisons, je sais pas, personnelles, de « moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Mais en réalité, il va gagner une forme de validation globale parce que le sacrifice est quelque chose, dans notre culture occidentale, qui a toujours reconnu. Quelqu'un qui s'est sacrifié, on se dit... Alors... Ça, c'est quand même chez les gens qui ont des unités de mesure valables. Le Raptor me disait à très juste titre récemment qu'aujourd'hui, les efforts ne comptent plus parce que les gens ne mesurent plus rien. Les gens ne mesurent plus ce qu'est le sacrifice, ils ne mesurent plus ce qu'est la différence, par exemple, entre un collabo de gauche subventionné sur YouTube et quelqu'un dont la chaîne a été rétamée 4 fois. Et les gens n'ont plus la considération de ça, ils ne s'en rendent plus compte. Donc, il y a une espèce d'horizontalisation de tout. Parce qu'en fait, pour avoir de bonnes unités de mesure, il faut avoir vécu, il faut avoir, si vous voulez, mesurer ce qu'est le sacrifice, mesurer ce que sont les coûts, d'en donner, d'en prendre. Et en fait, si on n'a pas vécu, si on est un mollusque, un gastéropode moderne qui tire sa compréhension de la vie des comptes rendus politiques sur YouTube, qui soient de droite ou de gauche, hein, ou de l'enseignement de Saint Netflix et de Saint Amazon, si vous voulez, ben, vous avez des individus qui sont complètement décorrélés des véritables unités de mesure de la vie. Or, le sacrifice est une véritable unité de mesure de la vie, vraiment. Et je pense même que c'est une des plus grandes. Allez, avec l'amour. Voilà, l'amour qu'on est capable de donner, mais de toute façon, l'amour est un sacrifice en réalité. Donc on en revient au sacrifice. Et c'est pour ça que c'est central dans le catholicisme, parce que le catholicisme, c'est la religion qui a le mieux compris les hommes. Bon bref, excusez-moi, je suis parti vraiment dans tous les sens. Mais c'est pour vous dire, donc c'était pour vous parler de tout ça et de vous dire que les Français ont besoin de ça. Vous voyez les trucs que je vous ai fait récemment là sur la période de l'Avent, c'est... Les podcasts qui ont le mieux marché parce que vous avez une nostalgie du monde d'avant qui, mine de rien, portait des valeurs qui étaient très proches de ce que je viens de vous exposer. Parce que, par exemple, pour Noël, on sacrifie un peu de budget. Noël, c'est un sacrifice aussi. On sacrifie ces petites querelles familiales pour essayer de se réunir parce que c'est sacré. Et le sacré, ça vient d'où, à votre avis? Vous comprenez ce que je veux dire? La sacralité et la spécificité des vacances de Noël, c'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. C'est parce que c'est la naissance de Jésus-Christ et qu'avant, la société était extrêmement chrétienne. Et que donc, du coup, on a gardé cette empreinte sacrée. Et c'est pour ça que malgré tout, Noël a cette magie. Les gens qui me parlent de magie pour Noël, mais la magie, c'est en fait, c'était la puissance de la foi. C'était le fait qu'à Noël, on célèbre en fait un renouveau. On célèbre à la fois la fin d'un cycle et d'un nouveau. Donc la fin de la fin de l'automne, le début de l'hiver qui promet l'arrivée du printemps. Donc c'est très très beau quoi. Et puis c'est la réunion familiale. Et ça ne serait que plus beau, je vous assure, parce que moi vous le savez, je ne me suis converti au catholicisme qu'assez tard. J'ai été baptisé il y a 2 ans et demi. Bon, j'étais déjà pratiquant avant d'être baptisé. J'ai commencé à pratiquer il y a peut-être 8 ans et ça s'est encore plus prononcé au fur et à mesure des années, mais je n'ai été baptisé qu'il y a 2 ans et demi et donc j'ai commencé à avoir une vie impliquée dans ma paroisse que depuis 2 ans et demi. Et je vous assure, si j'avais pu connaître les trucs que j'ai connus en étant impliqué dans ma paroisse, en étant jeune, je me serais régalé. Là, on a fait, dans mon village, on a fait la crèche avec les gosses. Mais je me suis attrapé des fous rires. Bon, vous connaissez le principe de la crèche. En fait, la crèche, on reproduit. Ça, c'est quelque chose, donc on démarre dans la période de l'Avent. Je crois qu'il y a encore quelques familles qui le font, ça se fait de moins en moins. Mais avant, tout le monde avait cette tradition de placer des petits personnages qui reproduisaient en fait, le soir de la naissance du Christ, donc le Christ est né dans une étable. Il est né dans une étable, donc entouré de la Vierge Marie, sa mère, de son père adoptif Joseph, des rois mages qui viennent de tous les points cardinaux pour venir lui offrir des cadeaux, donc la myrrhe, l'encens, et vous avez donc les animaux de l'étable, puisqu'il naît dans une étable, vous avez les animaux de l'étable, donc il y a ce côté reproduire la scène de la naissance de Jésus. Donc en fait, dans les familles ou dans les paroisses, quand vous allez dans les églises, normalement, si ce sont des paroisses où il y a beaucoup de paroissiens qui sont des paroisses vivantes, vous avez des crèches qui sont d'ailleurs de plus ou moins bonnes facture, de plus ou moins grande ampleur. Vous avez des crèches vraiment très spectaculaires. Je sais qu'il y a des villes où il y a vraiment des crèches très très jolies, et même des crèches vivantes où il y a des gens qui font qui s'habillent pour reproduire les personnages. Et vous avez des crèches où vous avez des espèces de dioramas avec des maquettes, où vous avez des petites maisons reproduites dans le style un peu de la Judée de l'an 1 quoi. Donc c'est sous l'occupation romaine et tout ça, donc c'est épique, franchement, quand tu rentres dans une église et que t'arrives et qu'il y a une maquette avec des soldats romains, on essaie de faire des villageois, donc il y a le Christ qui est né dans son étable, et autour vous avez la panetière, vous avez la charrette avec du foin, vous avez les amphores de vin. Bon, ça dépend des régions. Par exemple, en Provence, ils ont ce qu'on appelle les santons. Ce sont des petits personnages de plâtre, donc qui sont peints et qui sont des personnages en fait du 19e. Donc c'est l'application de la crèche, mais avec des personnages du 19e. D'ailleurs, C'est une des choses qui fait que j'aime beaucoup, beaucoup le catholicisme, c'est que c'est une religion qui est culturellement extrêmement protéiforme. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une crèche de Noël avec des personnages exclusivement provençaux, des personnages exclusivement bretons, des personnages historiques, donc romains, juifs, de l'époque de la naissance du Christ. Vous pouvez faire des crèches avec... Bon, vous pouvez pas faire des crèches futuristes. Bon, ça serait rigolo, une crèche futuriste, mais vous pouvez faire une crèche qui reprend un peu les codes de l'endroit où vous êtes. Moi, par exemple, dans mon village, donc là, le village où je suis en Espagne, on fait une crèche. Bon, il y a le Christ dans une étable et ils ont refait la mairie avec un drapeau espagnol et tout. Comme si Jésus, il était né à Rétafé, quand. Parce qu'en fait, le fantasme de chaque Espagnol, c'est qu'en fait, le Christ soit né avec un t-shirt du Real Madrid ou du Barça, quoi. Enfin, vraiment, ils ont ce sentiment que quelque part... Quelque part, Dieu s'est trompé s'il l'a fait naître ailleurs qu'en Espagne. Et je sais que c'est un truc qui est partagé par tous les chrétiens méridionaux. Il y a ce côté, ils acceptent pas trop que Jésus vienne d'un autre désert. Ils ont envie que Jésus soit italien ou portugais. Qu'est-ce que ça me fait rire. Enfin, moi, la crèche de mon village, en fait, donc ils ont fait tout un, ils ont respecté le truc, quoi. Ils ont fait une ville du Proche-Orient, vachement sympa et tout. Alors, ils ont cueilli des arbustes là dans les alentours qu'il y a chez moi qui ressemblent à des arbres. En fait, quand on les met dans une maquette, ça fait comme si c'était un arbre, comme si c'était un pin. Ces espèces de rames de romarin et tout. Enfin, ça ressemble au romarin, mais c'est encore différent. Et donc, c'est vachement bien fait. Et donc, tu vois l'enfant Jésus. Et qu'est-ce qui se passe à côté? T'as un bâtiment avec un gros drapeau espagnol. L'air de dire que Jésus, il est né à côté de la mairie, quoi. Non, mais enfin, vraiment, c'est génial. Et donc, vous avez cette tradition en Provence des Santons. Donc, c'est des personnages du 19e avec des habits. En Savoie aussi. En Savoie, j'ai vu des crèches avec des personnages montagnards avec l'habit savoyard et tout, la crêpe, la tarte ou la crêpe, je sais plus comment on dit, le béret savoyard. Je sais plus si on dit crêpe ou tarte. Vous me le signalerez, s'il y a des savoyards parmi vous, ou des hauts savoyards. Vous me le signalerez par, sur Insta, où je regarderai tout à l'heure. Mais ouais, je crois que c'est ça. Et si vous voulez, il y a ce côté où, en fait, quelque part, Noël nous ramène à la tradition. Mais pas uniquement la tradition religieuse, puisque la tradition religieuse, elle s'est conformée un petit peu aux endroits où on vit. Et en fait, Noël nous renvoie à nous-mêmes, quelque part. Il nous renvoie à la famille, qui est une extension de nous-mêmes. Il nous renvoie à nos traditions, qui sont ce qui a eu avant nous-mêmes et ce qui a produit nous-mêmes, puisque nous ne sommes que les héritiers de nos ancêtres et de leurs ancêtres avant eux. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de continuité de ligne. Et en fait, Noël nous rappelle plein de choses entre les gâteaux, les films Willow, la rediffusion du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Entre tout ça, au fond, même si vous ne le percevez pas directement, il y a cette notion de « et au fait, tu n'es pas une valise vide ». Tu es inclus dans une grande tradition, tu es inclus dans quelque chose de très beau qui te dépasse. Et moi, si vous voulez, en revenant dans mon village, je me suis reconnecté à ça. Alors, pour vous raconter, donc on a fait une crèche avec les enfants de mon village cette année. Putain, qu'est-ce que ça me fait rire. Et donc il y a le curé, on a un curé qui leur a expliqué, voilà les enfants, bon ben, alors on est allé acheter les personnages. Avec l'argent de la quête, hein. On est allé les disposer. On a fait des petits ateliers donc pour couper, pour ramener du sable avec de la colle. Donc on a mis le sable. Ensuite on a collé des petits cailloux. Chaque enfant avait à charge de faire un bâtiment. Donc moi j'ai fait des dessins donc pour leur montrer avec les centimètres. Donc ils avaient une petite règle, mais c'est vachement mignon, vous voyez. Et on a passé une après-midi à discuter, à parler d'histoire, à parler du village, de qu'est-ce qu'ils voulaient pour Noël. Mais vraiment. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas gazo, il n'y avait pas de rap de merde. Il y avait des enfants, plus ou moins christianisés, parce qu'à cet âge-là, si vous voulez, ils le font parce que leurs parents leur disent de le faire. Mais c'est très très bien parce que ça plante la graine. Et putain, on a passé une après-midi, on se faisait du café, du chocolat chaud pour les gosses. Hein. On a mangé des petites pâtisseries, tout putain, mais c'était sympa. C'est trois fois rien. C'est trois fois rien, on n'a pas eu besoin d'avoir le... Je sais que je parle comme un vieux con et il me saoulait les mecs qui parlaient comme ça quand j'étais gosse, mais les gosses, ils se sont régalés. Alors, bon, à un moment, j'ai supervisé parce que le curé devait aller faire un office dans un autre village à côté. parce qu'il y a une personne qui est décédée entre-temps, donc il est parti donner les derniers sacrements. Et moi, donc, je suis resté avec les enfants de ma paroisse, donc, en train de fabriquer les trucs. Et les gosses, je leur ai dit, bon, on avait fini, il se trouve qu'on a fini les bâtiments, et on a commencé à les disposer dans la ville et tout, et franchement, c'était pas mal. Franchement, la ville était stylée, tout. Il y avait vraiment un côté Bagdad. Bon, j'avais envie de faire patrouiller des soldats américains dedans. Ou des croisés, quand, tu sais. Je me suis dit à un moment, putain, vas-y, on fout Saint-Louis avec tous les Normands, les Picards, les Occitans, là. Ils viennent de prendre Jérusalem, ils patrouillent les gonzes. J'avais vraiment une très lourde envie de faire une grosse commande Amazon, tu sais, qui arrive le lendemain avec des chevaliers plein pot, tu sais, qui défilent dans la ville. Bon, bref. Et donc, du coup, on s'en est tenu à faire juste la comment s'appelle, les maisons avec les Palestiniens et tout. Avec les Juifs, les Palestiniens, les Romains, tout ça. Je fais exprès de dire les deux, hein, comme ça, on me casse pas les couilles. Hein. Bon, même si les Palestiniens à l'époque ne pouvaient pas être musulmans, puisque l'islam est arrivé en dernier. Donc, de toute façon, c'était soit des Juifs, soit des chrétiens. Bref. Et donc, on a fait ce truc-là. Et là, les gosses, donc, parce que bon, moi, il y a le côté quand même, il faut qu'il y ait de la testo. C'est-à-dire que j'aime le catholicisme, mais j'aime le côté testo du catholicisme. Donc, en fait, on a acheté des soldats romains. Mais normalement, tu vois, il y a trois soldats romains dans la crèche. Tu vois, l'air de dire, bon, ils sont là. En fait, c'est pour rappeler aussi qu'à un moment, ben, ils vont aller chercher. Judas va balancer Jésus. Et ah, voilà. Hein. Ah, voilà. Hein, Jésus était balancé. Hein, par qui hein, voilà. Mais bon, Jésus était juif aussi, donc bon. Et donc, on a les deux, en fait. Comme dans la réalité, les mecs qui vous disent les Juifs, c'est là, ben, les Juifs, c'est à la fois Judas et c'est à la fois Jésus. Donc voilà. Donc il faut le garder à l'esprit. Ça peut être le plus beau et ça peut être le plus sale. Voilà. Bon, mais c'est comme ça. Et en tant que chrétien, on doit se concentrer sur le plus beau. Bref. Et donc du coup, vous avez les soldats romains qui sont là pour rappeler qu'à un moment il y aura le drame, parce que le catholicisme, c'est quand même un truc, c'est le serious game. C'est-à-dire que oui, il y a les animaux et tout, mais à un moment, ça va charcuter. À un moment, voilà. Donc, si vous voulez, on mettait traditionnellement des soldats romains pour rappeler l'occupation de la Palestine, pour rappeler qu'il y a ce destin, hein, en fait. Hein. Il y a le destin, il y a le gros impérium qui est là, et à un moment, ils vont attraper Jésus et ils vont le crucifier. Bon, là, les gosses, en fait, on n'a pas acheté trois soldats romains, on en a acheté un régiment. Parce qu'en fait, comme j'ai vu Gladiator il n'y a pas longtemps, et aussi ces petits coquins, il y a un gosse qui m'a fait en espagnol, il m'a fait « Pero no había más romanos !» Mais il n'y avait pas plus de romains, parce qu'il a envie de voir des soldats avec des glaives et tout. Je lui dis « Oui, il y avait des romains. Ben, on va en acheter d'autres. » Du coup, on a acheté des centurions qui déboîtent avec des grosses armures. On a fait une patrouille romaine de fascistes, grand. Enculé, c'est la crèche la plus franquiste que t'as vu. À deux doigts de mettre un franco en plâtre. À deux doigts de foutre franco avec des rois mages qui viennent caresser le petit Jésus, grand. Ah, putain. Alors, au début, on allait au magasin. Donc, on est allé au magasin, on commence à acheter des soldats romains, et les gosses, ils sont en mode plus. Donc, c'est un soldat romain, deux, trois, putain, on a foutu un bataillon. En fait, il y a eu, est-ce qu'il peut y avoir des armes? Est-ce qu'il peut y avoir de la guerre dans cette crèche? Est-ce qu'on peut avoir de la guerre? Donc du coup, on a acheté des Romains et des Romains, mais putain, la ville est ceinturée par les Romains. On a mis une espèce de cinquième armée romaine, une cohorte, on a foutu. Mais les gosses, s'il y avait eu des santons avec des Romains qui sont maîtres chiens, qui ont des énormes clébards là attachés à des chaînes, ils les auraient calés, les gosses. Et en plus, ces petits enculés, ils ont comme dire « Ouais, mais les Romains, ils avaient des catapultes, il nous faut des catapultes !» Ah putain, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Ah, je me suis dit enculé, mais qu'est-ce que c'est testo, putain, qu'est-ce que c'est testo. Les mecs, tu leur dis, on va célébrer la naissance du Christ. Ils veulent qu'il y ait des flingues dans tous les sens et des mecs alignés. Et il y a un gosse, alors lui, je le soupçonne, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Soit c'est un nostalgique du Troisième Reich, soit il est extrêmement autiste. Il a commencé à prendre une baguette, parce que les personnages sont des petits socles. Et en fait, il a séparé les personnages de 1 cm exactement. Donc il a fait une tortue, mais il faudra que je vous fasse une story. Il a fait un bataillon de Romains, les mecs sont alignés à un degré. Enfin, même la 5e armée de Von Paulus n'a jamais été alignée comme ça en fait. C'est au-delà de l'Allemagne. L'alignement qu'il a fait, il est au-delà de l'Allemagne. Enfin. Et en plus, ce petit enculé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a viré un peu de sable pour que tous les soldats soient au même niveau, en fait. Et je dis, waouh, toi, t'aimes Jésus. Toi, tu l'aimes Dieu. Donc, si vous voulez la crèche à la fin, c'est l'armée romaine vient assister à la naissance de Jésus. Il manque plus que Russell Crowe au milieu, quoi. Il manque plus que Russell Crowe. Et là, je crois que t'as eu peur toute ta vie. Allez, un combat de gladiateurs, là, devant, là. Tu sais, c'est jamais assez. Allez, poussez-vous les rois mages, là. On veut des gladiateurs, là. Attends, oui, mais des cadeaux, tout à l'heure. Sortez Tigris de Gaulle. Allez, on y va, là. Allez, on y va, quoi. Donc, on fout le Germain, on fout le Noir. On fout Commode, le fils de pute. Et il y a Russell Crowe qui vient latter Commode devant la petite famille du petit Jésus, tu sais. Les mecs, ils viennent d'avoir un enfant, ils sont au milieu des animaux, t'as l'armée romaine qui arrive, t'as les extraterrestres qui envahissent, ils étaient à deux doigts d'acheter Schwarzenegger, Blaine, de faire le commando de Predator en fait. Qu'est-ce qui se passe, hein ? C'est la naissance de Jésus ou c'est la compilation de tous les trucs qui déboîtent sur Hollywood ? Et après les gosses sont partis en couille, ils voulaient foutre des... Parce qu'on a fait un endroit où il y a du désert, ils voulaient mettre un... Ils voulaient mettre un dinosaure et tout, j'aurais dit non mais... Putain mais... Parce que, mais c'est ça qu'il y a de magnifique avec l'enfance, c'est qu'avec l'excitation de Noël, tu veux rajouter, tu sais. Tu veux rajouter. Au début, il n'y avait pas de soldats, tu vois, ça leur faisait un peu chier. L'après-midi, elle n'était pas cool. Quand on a commencé à prendre la bagnole, qu'on est revenu avec un carton de soldats romains, bon, les mecs, là, déjà, ils se sont réveillés. Et puis après, ça a été la surenchère. Et allez, vas-y, la catapulte, la baliste. S'il y avait eu des Rottweilers à la même échelle, ils auraient acheté des Rottes, quand. Et là, on pourrait foutre 60 Rottweilers. Ah putain, les gosses sont partis chez eux à vélo à toute vitesse. Ils sont revenus. Les mecs, ils avaient des dinosaures dans les bras. Putain, Jésus, il naît au milieu des studios Warner Bros. En fait. Oh là là, non mais quand ils ont calé le tyrannosaure dans les palmiers, là j'ai fait non mais allez stop. Bon, ils ont été très déçus d'apprendre qu'il n'y avait plus de dinosaures à l'époque de Jésus-Christ. Ça leur a foutu un petit coup au moral. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est régalé. On a passé une après-midi extraordinaire. On a discuté, on a fait des trucs sympas, le curé il est revenu. Bon, il s'est aperçu que son église était devenue une caserne romaine. Alors je lui ai expliqué, mais bon, le curé l'a validé, ça l'a fait triper. Donc après, bon, on a enlevé quand même quelques soldats romains qui étaient vraiment... Parce qu'en fait, les gosses, ils avaient mis un commando de romains autour de l'étable, tu sais. Genre en mode personne doit approcher, tu vois. Bon, calmez-vous, il faut que ça reste... Faut que les papis et les mamies qui vont venir à l'église voir la crèche, ils voient pas un défilé de... Ils voient pas un défilé à Nuremberg, en fait. La crèche, elle était à deux doigts d'être antisémite, en fait. Oh putain, les Romains. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y aura aucun vol à l'étalage. Parce que tu sais, tu vois des bédouins et tout, tu te dis, bon, va y avoir le côté Aladdin, le voleur de Bagdad. Non. Là, il y a un flic tous les 100 mètres. Il y a un Romain en armure avec son lourd glaive fasciste tous les 5 mètres. Personne ne va rien voler. T'sais. D'ailleurs, tu te demandes comment l'économie romaine peut soutenir un effort de guerre pareil en Judée avec tous les soldats qu'elle a déployés. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, à Noël, ce que je vous demande cette année, c'est que vous rappeliez que Noël, c'est quelque chose qui a été fêté par vos ancêtres, qui était très important pour vos ancêtres, vos grands-parents, leurs grands-parents, eux, les grands-parents des grands-parents de vos grands-parents, et ainsi de suite. Et qu'en fait, on a presque une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas se présenter face à la fête de Noël comme si on avait rendez-vous chez le coiffeur ou qu'on allait se déguiser pour un bal masqué à thème. Voilà. Le Noël, c'est quelque chose où il faut vraiment faire un effort. Il faut produire un effort, même s'il est facile à produire, parce qu'en fait, en vérité, ça régale, mais il faut faire l'effort de se réconcilier, de trouver un moyen de se réconcilier avec les gens. Il faut faire l'effort de... il faut faire... comment vous dire ? Il faut faire l'effort de d'amplifier, on a la responsabilité d'amplifier cette magie. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand on était gosse, on ressentait cette magie, on n'avait pas forcément les outils pour l'entretenir. Et s'il y a eu de la magie, c'est que tout le monde s'y mettait. Nos parents, alors plus ou moins, hein, parce qu'il y a des parents, ils s'en branlaient complètement. Mais je veux dire, plus ou moins, il y avait cette notion, il y avait cette volonté de maintenir cette magie. Et d'ailleurs, quand on est adulte, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, dans la période de l'Avent, c'est le moment où je me retape tous les classiques parce que c'est rassurant. Déjà, ça me renvoie à mon enfance. Mais même, il y a un esprit dans les films de Noël qui est génial. Là, récemment, je parlais avec mon frère et avec avec Body Bro, on parlait de... On parlait de comment ça s'appelle ? De Maman, j'ai raté l'avion, qui est un énorme film de Noël, qui en plus big up extrêmement le catholicisme, hein, puisque le personnage va à l'église, il demande conseil, et en fait, l'église représente plusieurs étapes, il se réconcilie. Bon, ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler, ceux qui l'ont pas vu, allez vous faire ce film, Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment le film par excellence de l'esprit de Noël dans les années 90, donc c'est un gosse qui reste seul à la maison, enfin parce que ses parents l'ont oublié. Ils partent à Paris pour Noël et ils l'ont oublié dans la grande maison et donc il y a des cambrioleurs qui veulent cambrioler cette maison et là le petit Kevin qui est joué donc par l'acteur qui s'appelle Colin McCulkin se retrouve à devoir défendre sa maison pour passer un Saint Noël malgré le départ de ses parents. Il doit défendre la maison contre les préparer Noël et à la fois défendre la maison contre les cambrioleurs. Voilà. Et donc ça donne lieu à tout un tas de péripéties absolument géniales dans l'esprit énormément années 90 et vraiment c'est un très très grand classique. Et typiquement ce film, c'est vrai que moi, quand je m'y remets, ça participe parce que moi, je n'ai pas d'enfant, je vis assez loin de ma famille, j'ai des opinions politiques qui sont pas en phase avec ma famille. Donc, si vous voulez, pour retrouver la magie que j'avais dans mon enfance où justement, tout allait bien, mes grands-parents étaient encore en vie, tout ce que vous voulez, c'est un combat, si vous voulez, c'est un combat et c'est pas anodin de, comment dire, c'est pas anodin de le mener ce combat, voilà, c'est pas anodin de se battre pour maintenir Noël, mais ne serait-ce que pour les enfants. Vous allez revivre ceux qui ont des enfants, je le sais, moi j'en ai pas, mais c'est quelque chose que j'ai observé. Les gens qui ont des enfants revivent la magie de Noël au travers des yeux de leurs enfants. Quand la chair de votre chair ouvre des cadeaux, que vous êtes réunis en famille, que vous vous rendez compte que vous êtes capable d'offrir ce qu'on vous a offert quand vous étiez petit, c'est absolument merveilleux en fait. C'est quelque chose d'extrêmement plaisant et de se dire j'ai pas rompu la chaîne, je continue à fabriquer un bon Noël pour les enfants. Et ça, ça demande un effort en fait, ça demande un sacrifice financier, ça demande, même si on a des problèmes, de maintenir les apparences. Et c'est très 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 important de faire ça. Et moi, ce que je vous dis cette année, essayez de vous concentrer sur ce qu'est Noël, sur ce que ça veut dire, comment ça doit influer sur votre vie à cette période-là. Bon, après tout le reste de l'année, c'est bien aussi, mais je veux dire, faites l'effort particulièrement et vraiment, je vous demande un truc, c'est que vous renseignez, ça vous prend vraiment 2 minutes, là où vous vous trouvez, vous allez regarder à quelle heure est la messe de Noël. Des fois, elle est à 10h, des fois, elle est à 11h, des fois, elle est à minuit, enfin, rarement à minuit, mais vous avez un moment, vous mangez, vous faites votre repas et vous descendez, si vous êtes en ville, vous avez forcément une paroisse qui est pas trop loin, et vous allez faire la petite messe de Noël qui est assez courte, il y a pas de problème, c'est pas un truc, mais vous allez voir que c'est agréable d'aller reconnecter Noël à Dieu, et donc du coup de reconnecter Dieu à Noël et à vous-même, et vous allez rencontrer d'autres gens qui sont dans cette volonté-là de maintenir la magie Noël. Et imaginez si on était toute une nation de gens qui étaient attachés à maintenir la magie à Noël, on pourrait la maintenir dans plein d'autres choses. On pourrait la maintenir dans nos rapports, dans l'ambiance globale de notre société. Notre société aujourd'hui, elle est invivable parce que on n'est pas exactement 72 millions à vouloir maintenir l'esprit de Noël, si vous voulez ce que je veux dire. D'accord ? Et pas uniquement que ceux qui ne le fêtent pas pour des raisons religieuses. Il y a aussi des gens qui sont issus de la tradition chrétienne, dont les ancêtres étaient chrétiens, qui n'en ont absolument rien à piper. Et je pense que cet effort commun, il est vachement important. On a tous une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et on doit faire notre petit boulot, notre petite goutte d'eau, notre petit grain de sable pour essayer de faire pencher la balance civilisationnelle vers quelque chose de plus sympa. On est vraiment dans une société désenchantée. On est dans une société de gravité où vraiment on ressasse la merde toute la journée. Et je trouve que c'est vachement important de se forcer à prendre un moment pour remettre un peu de magie, parce qu'en fait, quelque part, ça se décrète. C'est comme tout le reste. C'est comme le bonheur, c'est comme le fait de se reprendre en main, c'est comme le fait d'aller mieux. Ça se décide en partie. Et après, on fait les efforts pour aller mieux, si vous voulez. Et vraiment, j'aimerais que ce podcast serve à ça, que vous disiez, putain, je vais mettre tout en œuvre cette année pour que Noël soit magique. Et ça passe par plein de petits trucs qui vont être vachement sympas. Faire l'arbre de Noël avec vos enfants, bon, qui est une tradition qui vient du nord de l'Europe, mais c'est très très bien. De toute façon, Noël est très corrélé. Si vous voulez, Noël est venu remplacer les anciennes croyances. Les anciennes croyances donc païennes, et en fait Noël est venu se superposer, donc il y a beaucoup de syncrétisme en réalité entre les cultures celtes, ce que vous voulez, pyrénéennes, basques, ce que vous voulez, germaniques, et l'application de Noël. Donc vous allez avoir des petites différences. En Espagne, vous avez beaucoup les rois mages et vous avez très très peu le Père Noël. En Alsace, c'est Saint-Nicolas, je crois, c'est ça, qui est plutôt germanique. Vous avez le Krampus en Pologne ou en Autriche, je sais plus, je confonds. Vous avez comme ça des trucs très de l'Est, vous avez le Père Fouettard, vous avez Babbo Natale en Italie. Il y a vraiment une très large application de la célébration de Noël, et ça passe aussi par des trucs qui sont hérités du pré-christianisme. Et je pense notamment que mettre un sapin, bon, vous imaginez bien que des conifères du nord de l'Europe en Judée, à la naissance de Jésus, il n'y en avait pas énormément. Donc c'est quelque chose qui est une tradition qui est issue très certainement des anciennes cultures pré-catholiques, mais elle laisse une empreinte qui est sympathique, qui n'est pas anti-chrétienne, qui ne porte pas de la spiritualité hérétique ou païenne, et c'est très très bien de se faire ce petit petit truc du sapin. Je trouve que c'est vachement bien, vous le faites avec vos enfants, ben vous participez à créer quelque chose de magique. Et puis après il y a la sélection de films, c'est le moment d'envoyer le steak dans le cerveau de vos gosses, quoi. Avant Noël, faut y aller, quoi. Faut envoyer tous les films qui nous passaient, nous, dans les années 90, le Jason et les Argonautes, le voyage de Sinbad, les comment ça s'appelle, Troie, tous les péplums. À Noël, on a beaucoup de péplums, les 10 commandements, le prince d'Égypte, comment ça s'appelle, le dessin animé du prince d'Égypte qui est vachement bien fait, tout ça et tout, qui raconte un épisode de l'Ancien Testament. Vous avez tous les films de Noël, La course jouée, Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, je vais pas tous les nommer, vous les connaissez, ceux qui sont de ma génération, vous les connaissez. C'est le moment de bombarder vos gosses avec, pour leur donner goût à cette magie, parce qu'en fait, cette magie, en fait, quand on fait le processus de penser à Noël en entier, on sait que Noël, tout le monde ne le fête pas. Qui le fête? Ben, ceux qui ont été dans l'ère de répartition du christianisme. Donc, si on ne veut pas que Noël disparaisse, il faut pas que le christianisme disparaisse. En tout cas, l'essence de Noël. Et donc, quelque part, en célébrant à fond l'esprit de Noël, vous vous reconnectez un petit peu au christianisme, et c'est vachement important. Donc même ceux qui sont pas baptisés, n'ayez pas peur, allez faire un petit tour à la messe de la veillée de Noël, parce que Noël c'est le 25, dans la messe a lieu le 24 au soir après le repas. Renseignez-vous, faites-le cette semaine, vous regardez un petit peu, c'est affiché hein, c'est affiché dans les paroisses là quand vous allez à l'église, sur la porte ou dans le sas. Vous avez un polycopier avec la messe de Noël se célébrera donc le 24 à telle heure. Voilà. Allez le voir où vous soyez et vous allez faire le test. Et vous allez voir que vous allez retrouver avec d'autres chrétiens, vous allez penser à Jésus, vous allez vous dire, putain, en fait, ben mine de rien, les préceptes de cet homme, là je vous le fais vraiment en version philosophique, sans la version spirituelle, les préceptes de cet homme, qui soit le fils de Dieu ou pas, parce que si vous n'êtes pas chrétien, peut-être vous n'avez pas statué là-dessus, ou vous avez du mal à le croire, ou ce que vous voulez, mais au moins, il y a le côté, cet homme a infusé cet esprit-là dans nos sociétés. C'est de cet homme-là que part toute cette bonté, que part toute cette envie de bonté, tous ces cadeaux à Noël. Et je trouve ça merveilleux de prendre l'angle du christianisme. Il y a des gens, le christianisme va les séduire parce que c'est épique, parce que les caravelles de conquistadors, les Normands, les siculo normands qui déboulent à Jérusalem à 1 contre 16 et qui plient le game avec Tancred et Bohémond de Tarente et Godefroy de Bouillon qui ne veut pas être couronné d'or là où le Christ a été couronné d'épines quand on lui propose d'être le roi de Jérusalem. Enfin, si vous voulez, il y a l'angle épique. épique, il y a l'angle épique du christianisme, d'accord, les croisades, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi l'angle familial, l'angle magie, et putain, notre religion, c'est vraiment la religion de la magie. Aucune autre religion n'a, si vous voulez, un sentiment aussi pur de connexion et de communion qui est aussi largement répandu. Noël, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ça les séduit. Ça les séduit. C'est pour ça que les musulmans de France, il y en a certains qui fêtent Noël alors qu'ils ne le devraient pas religieusement. C'est pareil pour les juifs, ils ne devraient pas fêter Noël. Il y a des familles de juifs qui fêtent Noël parce que Noël a cette puissance qu'a insufflé le Christ dedans, qui est de nous ramener à des sentiments tellement agréables, tellement beaux, que c'est incontournable. Et pour moi, c'est un des aspects, c'est une des grandes réussites de notre religion. Voilà. Et ça se traduit après par... imaginez si on revenait dans une France où à la messe de minuit, le curé, c'est le pilier ou le second de ligne de ton équipe de rugby dans le Gers. Comme le mec dont je vous ai parlé qui est passé sur la petite vidéo de la Dépêche. Enfin, on a tous envie d'une France comme ça. Et donc, je vous disais au début, il y a plein de gens qui manifestent l'envie d'avoir une France comme ça, mais ils décorrèlent complètement leur participation active à ressusciter une France comme ça. Et moi, c'est là où j'ai des reproches à... Vous savez que récemment, j'ai eu des propos très très durs sur le milieu patriote parce que j'estime qu'ils ne font pas les efforts minimums pour nous ramener à la France que pourtant ils désirent. Ils disent désirer cette France-là et pourtant ils ne font rien pour qu'on y revienne. Et c'est un peu ce que je leur reproche. Pour moi, on devrait être en train tous... De se forcer avec des petits gestes à refabriquer une France où la magie est généralisée et ça passe par la recristianisation. Voilà. C'est pour ça que je vous disais en début de podcast d'essayer, vous faites plaisir à vos proches avec des cadeaux de toutes sortes, offrez-leur quand même quelque chose en rapport avec Dieu, offrez-leur quelque chose en rapport avec la France, offrez-leur quelque chose en rapport avec nos traditions et encore mieux, offrez-leur quelque chose en rapport avec et Dieu et la France, voilà, et notamment l'histoire de France. C'est pour ça que je vous parlais de ce bouquin-là qui est disponible chez Tata France, parce que je trouve que ça peut être un super cadeau parmi d'autres. Voilà, c'est sûr, un ado à Noël, tu lui offres un bouquin. La génération d'aujourd'hui, bon, il bad. Mais si tu lui offres des trucs, voilà, dont il avait envie, je sais pas, les trucs de Gogol, des jeux vidéo, tout ça et tout. Moi, j'étais super content quand je recevais les jeux vidéo. Il y a un Noël, j'ai reçu Worms Armageddon. Je vous en parlerai dans le prochain podcast. Je vous parlerai de mon Noël, de mes meilleurs Noëls. Voilà, de mes meilleurs Noëls dans le prochain podcast. J'avais reçu ce jeu-là, mais j'avais été super heureux. Et à côté, mon père m'avait offert une BD sur Roland de Roncevaux. Parce que j'étais déjà vachement branché chevalerie. Et putain, j'avais pris autant de plaisir à lire le bouquin qu'à jouer au jeu. Et mine de rien, ben, c'était le bon angle parce qu'il y avait le côté où je me régalais avec un jeu vidéo, et à côté, j'avais un bouquin qui me ramenait à mon histoire et tout, et ça a planté la graine. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de cibler les choses à Noël, de montrer les bons films, de donner goût à l'histoire, de donner goût à la civilisation, de donner goût aux traditions, d'expliquer aux enfants, juste un petit devoir d'explication. Nous, on fête Noël parce que on est traditionnellement des chrétiens. Voilà. Donc peut-être qu'on ne pratique pas encore. Peut-être qu'un jour ça viendra, on va faire des efforts pour le faire, mais tout ça, c'est parce que, en fait, toute cette bonté, c'est parce que il y a quelqu'un qui est venu sur Terre et qui a dit ce qu'il y a de plus important, c'est la famille, la bonté, le partage. Voilà. Et ça, c'est inédit. C'est inédit. Donc voilà, je vous demande de penser à ça et essayons tous de refabriquer une France vachement plus féerique, hein, une France vachement plus traditionnelle. On a tous à cœur la France d'avant et on ne fait pas les choses d'avant. Refaisons les choses d'avant, réinscrivons les enfants dans les sports régionaux, voilà, je sais qu'il y a des types de luttes particulières en Bretagne, il y a des trucs, putain, inscrivez vos gosses dans des trucs, refaisons ça quoi, moi je sais que par exemple à Toulouse tu peux inscrire tes enfants à dans des écoles occitanes, au Pays-Bas il y a les Icachtola, il y a les Calandrettes à Toulouse qui sont les écoles occitanes, il y a des écoles en Corse aussi je crois, essayons par des petits trucs comme ça, des petits choix, de refabriquer la France. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont en mode « Ah putain, ça serait bien que ça revienne, on est dans notre coin, on commande des trucs sur Internet, et en fait, en réalité, il y a des petits gestes qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. La petite messe de minuit, aller inscrire mon gosse dans un sport régional plutôt qu'un sport importé. Voilà. Alors même si tous les sports sont importés, parce qu'en réalité, le rugby, bon, c'est un truc qui a beaucoup été codifié, c'est William Webb Ellis, je crois, qui a codifié, ou qui a été le premier à codifier les règles du rugby ou le premier à jouer au rugby. Bon, bref, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que Ce sont des sports qui ont marqué les générations, qui sont des marqueurs identitaires. Mais c'est pas forcément des sports, ça peut être aussi des activités, même si c'est toujours bien que vos enfants fassent du sport, je vous le conseille. Mais ça peut être des... Par exemple, je sais pas, dans les Alpes, il y a beaucoup de ski, d'alpinisme et tout ça. Putain, parce que, en fait, le trait d'union entre vos ancêtres et vous, on a l'impression qu'il est cassé par plein de trucs, mais il est très très facile à ressusciter. Il est très très... Un costume régional, aller visiter le musée à Saint-Jean-de-Maurienne, le musée de la Savoie... voir, moi je me rappelle dans le musée de la Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne, j'avais vu les meubles dans lesquels dormaient les Savoyards, ils dormaient assis parce qu'à l'époque on pensait que si on dormait couché, on mourait. Mais ça c'est génial et ça te marque. Quand t'expliques ça à un gosse, tout d'un coup, le passé il prend une dimension épique à un degré, il se dit oh putain, quoi, les gens ils dormaient assis, ils dormaient dans des meubles déjà. Parce que c'est vraiment ça, c'était des meubles qui étaient encastrés dans les murs et tu dormais dans le meuble, alors c'était aussi pour des questions de température, mais tu dormais dans un placard quoi concrètement. Tu dormais dans un placard et tu dormais pas complètement couché parce qu'on pensait que si t'étais complètement couché, la mort t'attrapait. Bon bref, t'avais des trucs. Mais ça marque les gosses. C'est la sortie au château fort. Putain, avant Noël, allez visiter le château des Chevaliers avant Noël, mais vous vous rendez compte pour votre enfant? Si juste avant Noël, il est à la Carcassonne et que chaque année, il va à Carcassonne avant Noël, je parle de Carcassonne parce que c'est à côté de Toulouse, mais ça peut être très bien le château de Pène en Albigeois, ça peut être le château de Foix, ça peut être les châteaux que tu trouves dans le Béarn, les châteaux du Comminges, il y en a plein dans le Comminges. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de petits trucs à faire pour sacraliser Noël. Il y a les films, évidemment, mais bon, c'est ce qui demande le moins d'efforts. Mais il y a le reste, quoi. Tu fais une sortie médiévale et puis après, tu regardes un film de chevalier. T'inquiète pas que ton gosse, il va pas devenir d'extrême gauche plus tard. Voilà. Parce que t'as planté la graine, en fait. Donc, quelque part, tu rends service à ton pays, en fait. Tu vois. Au lieu de faire des trucs de fiottes, là, ou décorer les Noël. Il y a des familles avant Noël, ils vont au chinois à volonté, fils de pute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, avant Noël, faut manger des plats de la Renaissance, là. Des plats qui étaient mangés par des gonzes, là, vous savez, avec des. Le logo de la bière Cruzcampo, là. C'est un espèce de personnage obèse, là. Ça a l'air d'être un luxembourgeois ou un mec des Pays-Bas, avec une énorme coiffure, là, de la Renaissance. Une espèce de crêpe, là, avec une plume en velours, là. Il a une écharpe. C'est ça qu'on veut à Noël, des jarrets de porc avec sa sauce aux champignons. Qu'est-ce que vous me parlez de vos samoussas de fils de pute? Putain. Non, en plus, j'ai rien contre la cuisine asiatique. Je vais souvent manger asiatique. Mais ce que je veux dire, c'est que putain, à Noël, c'est le moment de se rappeler qu'on est européen, putain. Allez, là, au Luxembourg, ils font, pour ceux qui sont près du Luxembourg, ils font une espèce de spécialité. C'est un jarret de porc qui tourne sur une broche avec de la bière qui coule dessus. J'y étais allé avec mon ex. Je m'étais régalé. C'était un des moments, c'était juste après Noël, c'était merveilleux, quoi. C'était en janvier, un peu avant mon anniversaire. Je m'étais régalé, ça avait été une des plus belles soirées de ma vie. J'avais bouffé des jarrets. Donc, ils tournent à la broche. C'est dans une distillerie de bière non filtrée. Et vous avez, en fait, des tuyaux qui font goûter la bière, hein, sur les jarrets qui tournent à la broche. Et au bout d'un moment, ça fait une croûte de bière autour du jarret, bordel de merde. Bordel de merde. Un gosse qui a bouffé ça, qu'est-ce que tu veux lui faire réciter la Shahada? Qu'est-ce que tu veux lui faire qu'est-ce que tu veux lui vendre le comment ça s'appelle le qu'est-ce que tu veux lui vendre le projet LGBT, un gosse qui a bouffé ça, quand est-ce que tu penses qu'il va pouvoir être récupéré par la LFI, quand si le mec il a mangé des jarrets à la bière avant Noël avec son lourd daron, d'accord, dans le gros duché du Luxembourg, qu'est-ce qui se passe, putain? Et après tu vas lui faire visiter les tranchées au gosse, une fois qu'il a bien bouffé tu dis regarde, t'as le ventre plein, dis-toi qu'il y a des mecs qui ont laissé leur âme là. C'est comme ça qu'on fabrique des Français. Vous me cassez les couilles là, me dire oui, oulala, les Arabes, gna gna gna, oui, les Juifs, tout ça, oui, d'accord, oui, il y a BHL, il veut, Jacques Attali, il veut que notre pays devienne, il veut que devienne un hôtel, et les autres, ils nous expliquent que si on fait de la Ligo halal, il n'y a pas de problème, voilà, que notre culture, en fait, c'est une capote, tout le monde peut l'enfiler et gicler dedans sa sauce, hein, il n'y a aucun problème. Mais en fait, le meilleur moyen de résister à ça, c'est pas d'aller commenter des trucs sur Internet. D'être proactif, voilà, d'amener vos gosses dans des restos régionaux, d'amener vos gosses dans des endroits qui les rattachent à leur histoire et à l'hérédité de cette histoire, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour ceux d'entre vous qui viennent des Outre-mer, d'accord? Pour les gens qui sont antillais, qui ont des ascendances polynésiennes, qui ont des ascendances, je sais pas, qui sont pas françaises, il y a toujours un segment de l'histoire française où vous avez la participation de gens d'Outre-mer à l'effort national et à l'essor national. Vous voyez? Par exemple, à Reims, là, je vais amener mon boxeur, donc lui, il est sénégalais de papier, d'accord? Il est là légalement, tout ce que vous voulez, c'est pas un clando, je sais pas quoi. Il a ses papiers, mais il est pas français, il est pas espagnol. C'est un citoyen sénégalais qui est venu travailler en Espagne. Là, il m'a demandé, il a visité la France, ça l'a ébloui. Et en fait, il m'a confié, je ne le savais pas, mais il m'a confié que son grand-père est mort. Son grand-père était un tireur sénégalais et il est mort pendant la Première Guerre mondiale en France. Et je ne le savais pas. Et je lui ai dit, mais attends, mais c'est magnifique. Ben, viens, on va, si tu veux, on va à Reims. On va regarder le monument dédié au tir. À Reims, il y a un monument dédié aux tireurs sénégalais. Je lui ai dit, si tu veux, on y va, on pourra se recueillir. Mais il était à balle. Il était à balle. Le mec est sénégalais et en fait. Il adore la France et là, ça lui donne un motif de se raccrocher à ça, quoi. Il s'est dit, putain, je suis tellement fier parce que lui, bon, lui, il a grandi en sachant que son grand-père avait fait cette guerre et qu'il y était resté. Mais si vous voulez, il savait pas ce que c'était la France. Quand il est venu à Paris, il a halluciné. Quand il s'est baladé en Paris, il m'a dit, mais c'est d'une beauté, ce pays d'une beauté absolue. En plus, il est tombé sur des gens très, très gentils. Il a rencontré un gars avec qui il discutait, là, qui est venu nous voir à l'hôtel où on était. Que j'ai rencontré, je lui passe le bonjour d'ailleurs, et il s'est dit putain mais les gens en France, c'est sûr ils sont moins exubérants que les Espagnols et tout, mais quand on apprend à les connaître, c'est vraiment des gens bien. Là, il a découvert la France en fait, il a découvert l'âme française. Hein. Et là, il va aller à Reims. Ben ça, est-ce que c'est pas une merveilleuse manière de raccrocher quelqu'un à l'histoire de France? C'est sublime putain. Et y a vraiment de la place pour tout le monde. Vous avez des bataillons entiers de Polynésiens qui sont venus faire la Première Guerre mondiale. Alors je sais plus si c'était dans la Somme ou à Verdun. Faudra que je regarde. Mais putain, quand même quoi. Quand même, c'est pas rien. C'est magnifique. Et ça, ben ça vous rattache à l'histoire de France. Moi, j'ai pas d'ascendance française. Comment je me suis mis à aimer ce pays? Bon, déjà parce que ce pays a beaucoup donné à mes grands-parents et à mes parents, et donc j'essaie de lui donner beaucoup. Et comment je suis devenu amoureux de la France? Mais c'est à travers tout ça, c'est à travers tout ce qu'avait réalisé le peuple historique français. Et quand j'ai su que il y a des moments où, alors effectivement, la France a été en guerre avec l'Espagne, mais il y a eu des moments où les Espagnols ont participé côte à côte avec les Français à des batailles décisives pour défendre l'Europe, notamment le siège de Malte aux côtés des Gascons et de Fernand de la Valette, le gros Aveyronnais. Mais c'est magnifique, quoi. C'est des trucs, je me suis dit, putain, il y a une place pour moi, même en tant que Français d'origine espagnole, il y a une place pour moi dans la grande histoire de France. Et c'est merveilleux de pouvoir se dire ça. Donc, si vous voulez, même si vous êtes des extra-européens, vous avez l'impression que ce discours ne tient pas pour vous, il y a dans l'histoire de France plein d'événements, j'en suis persuadé, d'où que vous soyez, qui actent que le peuple duquel vous êtes issu a participé à défendre la France. Voilà. Et ça c'est merveilleux. Et ça s'applique évidemment aux juifs et aux musulmans. Il y a des musulmans qui ont porté l'uniforme et qui sont morts pour la France. Ceux-là, ils méritent quoi qu'on pense de leurs descendants. Ceux-là particulièrement, ils méritent quand même que. Et s'ils ont envie de communier dans le grand projet français, ben ça leur donne toute la légitimité. Voilà, ceux qui ont porter l'uniforme, je veux dire, comment on pourrait les délégitimer? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil pour les juifs, il y a énormément de juifs en proportion par rapport aux communautés. Parce que ça, je l'avais entendu aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, il y a très très peu de juifs qui sont morts à la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Alors déjà, faut comprendre un truc, c'est que par rapport la proportion de juifs qu'il y avait en France, elle était bien moindre, parce qu'à l'époque, vous aviez 14-18. La France avait encore l'Algérie. Vous aviez beaucoup de juifs en France. Vous avez très peu de juifs en France. Vous avez quelques juifs en Algérie. Vous aviez beaucoup de musulmans français puisque l'Algérie était un département français. Donc, si vous voulez, en proportion, hein, je dis pas en nombre, en proportion, vous avez plus de juifs qui sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale que de musulmans par rapport à la proportion qu'on avait. Mais c'est normal parce qu'on avait l'Algérie en entier. Donc l'Algérie était composée de je sais plus combien de 7 ou 10 millions de musulmans à l'époque. Voilà. Puis après, on les a vaccinés, on leur a laissé un pays avec 22 millions de personnes. Parce que quand les Français arrivent en Algérie, ils sont moins de 7 millions. Donc, si vous voulez, il y a une place, d'où que vous soyez, il y a une place pour vous raccrocher à l'histoire de France. Voilà. Après, évidemment, là où ça coince, c'est avec le religieux par rapport à Noël. Voilà. Un musulman et un juif, en tout cas un vrai musulman, un vrai juif, bah, il se heurte au fait que Jésus est un imposteur pour les juifs et que pour les musulmans, c'est pas le fils de Dieu, c'est un prophète et que le Jésus des chrétiens est donc un Jésus mal compris, un Jésus menteur. Ou voilà. Bon. Donc, si vous voulez, voilà, c'est le seul obstacle, mais et qui, à mon avis, bon, malheureusement, est très déterminant. Mais si vous voulez, pour le reste, hein, pour les autres qui sont de culture chrétienne mais qui sont extra-européens, vous avez un boulevard pour vous raccrocher à l'histoire de France. Voilà, les amis. Donc, écoutez, je vous laisse sur ce petit podcast plein de demandes et de requêtes. qui est de vous raccrocher à votre héritage et de surtout pas y renoncer, et que nous soyons en cohérence avec ce que nous désirons. Nous redésirons une France d'avant, refaisons les choses que faisaient les gens avant. C'est vraiment très très simple. Moi, j'ai vu plein de commentaires sur la vidéo de l'abbé rugbyman en disant: ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Est-ce que tu vas au rugby? Non. Est-ce que tu vas à l'église? Non plus. Bon, mais en fait, il vaut mieux pas commenter dans ces cas-là. Il vaut mieux pas commenter. Voilà. Parce que si tu plussois un truc que t'es incapable de. C'est comme si. Il y a un officier qui il souffle dans un sifflet là pour faire l'assaut contre les cheleux. Et en fait, il y a un gonze. Ah super, hein, bravo les mecs de monter sur le parapet. Mais lui, il reste à l'arrière. Bon, ben celui-là, t'as envie de lui mettre des calottes. Ben c'est ce qui se produit. C'est ce que j'ai envie de faire. Le mec qui veut dire: ah, putain, génial la France d'avant, et qui comprend pas qu'il peut participer à la refaire. Il faut bien comprendre que. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu des mots très durs récemment sur le milieu. Parce que pas assez de gens font le minimum. Voilà. Reconstruisons la France, refaisons-la avec des petites choses, et surtout refaites-la pour ceux qui ont des enfants, avec vos enfants. Je me garderai bien de vous donner des conseils d'éducation parce que je ne suis pas légitime pour le faire, je n'ai pas d'enfants. Mais en revanche, des conseils civilisationnels, c'est un peu ce que je défends depuis 10 ans, donc je me permets de vous les donner. Voilà les amis. Écoutez, je vous embrasse. Donc je vous rappelle que ce podcast a été promu et soutenu par la Société Terre de France. Si vous voulez faire un cadeau utile, il est encore temps. Procurez-vous les objets qui sont mis en vente sur le site Terre de France, et notamment l'histoire de France par Jacques Bainville, qui vous reconnectera à votre passé, et donc du coup à votre futur, puisqu'il n'y a pas de futur sans passé, les amis. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Vive la France, vive l'esprit de Noël, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'esprit de Noël. Je vous embrasse, les amis. Terre de France pour vos cadeaux. Merci à tous.